Donc, je suis contente de pouvoir partager un peu avec vous ce que j'ai reçu de Dieu pour cette semaine 3. Et puis pour moi, c'est presque impossible de venir parler ici devant sans parler de moi. Voilà. Donc, je vais beaucoup raconter sur moi, sur ce que Dieu a, voilà, sur ce que Dieu a mis dans mon cœur et ce que j'ai vécu avec Dieu pendant mon cheminement. Mais je ne sais pas si vous avez vu, peut-être pas, on n'a pas diffusé, mais le thème c'est « Que faire quand ma voiture est en panne ?» Je vous ai entendu, j'ai vu que vous parlez de ça aussi un peu dans les groupes, et puis j'aimerais aussi parler par rapport à ça. Et puis Thierry, il avait dit la semaine dernière des conséquences du péché qui affectent notre vie. Ça peut être du péché causé par les autres, qui nous blesse encore aujourd'hui, mais ça peut être aussi quelque chose que nous, on a causé, que nous, on a fait. Et puis ces choses-là, elles apportent un mélange de sentiments dans notre vie. Ça peut être un sentiment d'injustice, un sentiment de tristesse, un sentiment d'incapacité, un sentiment d'angoisse, de culpabilité ou de colère. Voilà, plusieurs sentiments. Et puis dans le livre, il explique que les sentiments sont comme les témoins lumineux d'une voiture. C'est pour ça l'image. Donc ça m'est venu, la lumière, elle était allumée. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis c'était la caméra. Et puis là, directement, il a des fonctionnalités de la voiture qui ne vont plus marcher. Par exemple, là, c'était la caméra, donc, la reconnaissance des panneaux de vitesse, elle va pas, voilà, elle n'arrive pas à reconnaître. L'aide de parquage ou le freinage d'urgence automatique de la voiture. Mais voilà, quand une chose comme ça nous arrive, comme j'ai dit avant, on a quelques options. Un, en panique, on dit, oh, mais qu'est-ce que c'est ça, une lumière qui est allumée, au secours. Et puis j'ai une amie qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, elle appelle directement son mari. Elle dit, mais tu sais, mais j'ai quelque chose dans la voiture, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais tu peux m'aider. Voilà, elle panique directement, elle appelle son mari, elle ne sait pas quoi faire. Mais donc, voilà, quand nous arrive une chose comme ça, on panique directement. Soit on panique, soit on dit, on ignore, on dit, mais tant pis, on laisse là, ça va disparaître tout seul, et puis on continue notre vie. Soit on essaie de résoudre à notre manière. Ça, je sais, on ne va pas arriver à résoudre comme ça, mais on tape. Oui. On tape la voiture, mais ça va, est-ce que ça va ou bien? Et puis, voilà. Comme ça non plus, on n'arrive pas à résoudre le problème. Ou alors, on essaie de reconnaître le problème, de découvrir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Et là, on peut enfin résoudre le problème. Ça nous est arrivé qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire un témoin lumineux qui s'est allumé. Et puis, je cherchais sur le truc de la voiture, le cahier de la voiture. Je me disais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Puis là, j'ai trouvé, là, c'est plus simple de résoudre. Et puis, dans les blessures de l'âme, les sentiments ont le même rôle. Les sentiments pointent vers quelque chose qui nous a marqué. Puis moi, j'ai grandi dans une famille où les paroles valorisantes n'étaient pas prononcer, utiliser, voilà. Et puis un exemple, j'ai travaillé un temps avec mon oncle, et puis j'ai décidé de le quitter pour chercher quelque chose d'autre, de mieux pour moi, voilà, de trouver un autre boulot. Et puis, sa phrase à la fin, c'était, de toute façon, tu vas trouver rien de mieux. Et puis pour moi, c'était comme si je me disais, mais tu n'es pas capable de trouver quelque chose de mieux. Tu peux pas, tu n'es rien, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Et puis ça m'est quand même resté. C'est des paroles vraiment fortes, ça marque. Ou alors, une autre chose, c'est quand mon beau-papa il a quitté la maison, ma maman elle devait travailler, moi j'ai resté à la maison, je l'ai raconté plusieurs fois, j'ai resté à la maison avec mes frères et sœurs. Et puis un jour, ma maman elle arrive du travail. Elle était fatiguée, ou je ne sais pas, elle était stressée, normal, c'était toujours comme ça. Et puis, j'avais pris le temps de tout nettoyer la maison, ranger les choses, tout ça. J'ai dit, au moins, quand elle arrive à la maison, elle aura rien à dire. Mais non. Elle arrive, elle a commencé à dire des choses. Ah non, mais si, mais ça, mais la maison, mais. Puis j'ai dit, mais maman, t'as vu que j'ai rangé la maison? T'as vu que j'ai nettoyé la maison? T'as vu que j'ai organisé la maison? Et puis sa réponse était non. Mais de toute façon, tu n'as pas fait, t'as fait que tes devoirs. Tu devais faire ça. C'était que ton devoir. Et puis je dis, pas merci Clarissa, t'as bien fait, mais c'est vrai, les choses sont bien rangées. Non. Rien du tout. Et puis des choses comme ça, c'est le moment où tu dis, OK, c'est ma maman, elle a toujours agi comme ça. Mais ça revient. Du coup, j'ai passé par ces quelques étapes aussi que j'ai mis ici. Paniquer. Quand elle était stressée aussi, ma maman, des fois elle disait, je veux partir de la maison et je ne veux plus jamais revenir. Et puis tu dis ça à tes enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou des fois, elle me disait, je vais vous séparer les enfants. Je vais donner un enfant à gauche, un enfant à droite. Et puis moi, j'arrivais pas, je ne sais pas mes frères et sœurs, comment ils ont entendu ça, digéré ça, mais moi, ça m'est resté. Mais comment ma maman, elle peut partir et nous laisser? Et puis des fois, quand elle arrivait un peu en retard de travail, je commençais à paniquer. J'ai dit, mais où est ma maman? Est-ce qu'elle va revenir ou pas? Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est de ma faute? Voilà. J'avais le sentiment d'insécurité causé par le péché de quelqu'un d'autre. D'autres fois, ça m'est arrivé de juste ignorer. Quelqu'un me faisait un commentaire, une remarque négative, et puis je disais, mais tant pis. Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle est pour me dire une chose pareille? Ça ne me touche pas. Mais les témoins lumineux, ils étaient là. Je trouvais toujours injuste. Je suis restée triste par ces genres de commentaires, en colère des fois. Et ça m'est arrivé aussi d'essayer de résoudre à ma manière. Mais comment? Genre, si quelqu'un m'avait fait quelque chose, je cherchais quelqu'un d'autre pour parler de cette personne. On fait souvent ça, je pense, hein. On a l'habitude, si on n'est pas content avec quelque chose qui nous est arrivé, on cherche quelqu'un d'autre, mais sûrement quelqu'un qui va nous appuyer. Il va nous dire, ah oui, mais je suis d'accord avec toi, mais cette personne, elle n'a pas bien agi envers toi. Et puis voilà, on va détruire la personne. Puis moi, je cherchais aussi de faire ça, de résoudre à ma manière de parler, mais cette personne, elle m'a fait ça, elle m'a blessé, et puis ça. Et puis je sais, je ne veux pas résoudre comme ça le problème. Ça ne change rien. Je veux juste peut-être me sentir un peu plus légère, mais ça ne va pas aider à résoudre le problème. L'unique chose qui a pu vraiment m'aider, c'était d'amener ma voiture chez le garagiste. Encore mieux, pas chez le garagiste, mais chez le fabricant. Celui qui m'a créé, il sait exactement tout ce que j'ai passé, tout ce que je ressens. Celui qui connaît chaque petite partie de mon histoire, chaque blessure, chaque cicatrice. C'était faire ce que le psaume 26 nous conseille. Tu peux juste mettre le verset? Voilà, quand il dit, mets-moi vraiment à l'épreuve, Seigneur. Examine mes pensées et mes sentiments. C'était amener mon problème vers le fabricant pour qu'il puisse vérifier pourquoi il a tous ces sentiments. C'était s'approcher de lui pour qu'il puisse montrer la cause du problème et réparer le mal qui a été causé. Jésus, il a toujours voulu guérir mon âme. Et puis le point de départ, c'était dans une école de dimanche où je me souviens de rien du tout, juste un verset qui m'est resté, qui disait, je me souviens juste de cette partie-là vraiment, il a beaucoup de place dans la maison de mon père. Mais c'est la seule chose qui m'est restée. Dieu avait une place pour moi. J'avais juste gardé ça. Mais la suite du verset, j'ai découvert juste beaucoup de temps plus tard, elle dit, et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Au début, Dieu m'avait juste dit, je veux, dans ma maison, il a beaucoup de place. Je dis, OK. Mais je ne savais pas qu'il préparait une place pour moi. Il m'invitait à cheminer avec lui. Ça, je ne savais pas. C'était seulement quand j'ai pu amener ma voiture chez le fabricant. Et puis ce verset m'a aidé à comprendre ma valeur ne vient pas des choses que les autres disent de moi. J'ai de la valeur parce que Dieu me veut avec lui. Il me fait de la place. Il veut que je sois là où il est avec lui. Mais ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple. Parce que moi, en tout cas, je doute souvent de ma valeur. Pourquoi cette semaine, je ne sais pas si c'était une attaque de l'ennemi, mais cette semaine, j'ai eu beaucoup de doutes. Et puis je dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Je sais que pour toi, j'ai de la valeur, mais pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi le regard des gens, c'est tellement important pour moi? Pourquoi ce que les gens disent de moi, c'est tellement important? Et puis, je n'ai pas eu de réponse. Mais je dis, je sais que pour toi, à tes yeux, j'ai de la valeur. Mais ce n'est pas simple. Et puis, une autre étape de ma vie, c'était aussi une campagne qu'on faisait, comme on fait là, c'est un mois pour aimer l'essentiel, où l'auteur disait, tu n'es pas ici par hasard. Même si ton père et ta mère t'ont pas planifié, moi si. J'étais venue, j'étais aimée. Et puis je sais que tout ça vient. On parle souvent de ça, que quand les mamans elles sont enceintes, les bébés ils ressentent tout que la maman elle ressent aussi. Et puis je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que ça peut être ça. Vu que ma maman, elle m'attendait pas, voilà, elle avait 16 ans quand elle est tombée enceinte. Et puis, mon papa, il a dit non, c'était pas mon enfant. Donc, ma maman, elle a dû déjà vivre avec ça. Pour elle, c'était pas facile, voilà, une jeune de 16 ans qui tombe enceinte avec un papa qui dit non, c'est pas mon enfant, vis ta vie. J'imagine que ce que ma maman, elle a pu ressentir, ce qu'elle m'a transmis. Et puis, moi, je ressens ça encore aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que je doute souvent de ma valeur. Parce que je n'ai pas eu cette sécurité-là quand j'étais petite. Je n'ai pas eu des paroles valorisantes. Et puis ça m'est resté. Je partageais dans le groupe. Des fois, on dit non, mais cette fois, c'est bon. C'est bon. On peut passer cette page-là. On peut tourner cette page. Et puis non, ça reste. Ça reste là et on ne se rend même pas compte de comment ces choses-là nous ont marqués, nous ont fait du mal. Et puis cette parole, elle est appuyée sur la Bible, dans la Bible, par exemple, avec le verset, Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Puis j'ai passé pas mal, j'ai dû passer pas mal de choses dans ma vie. Mais c'est vrai que le Seigneur, il était toujours là. Il était toujours là. Même avant que je puisse donner, avant de donner ma vie au Seigneur, il était toujours là. Je sais parce que j'ai eu des moments où j'ai douté vraiment de la raison pour laquelle j'étais là. J'ai dit, mais pourquoi être là dans une famille où personne, voilà, te dise de paroles valorisantes ou. Comment dire, t'es pas importante. Pourquoi t'es là? Mais le Seigneur, il avait un plan pour moi, et puis moi, je savais pas. Mais il avait un plan pour moi, pour ma vie. Dieu veut guérir mes blessures, pas juste mettre une carapace. Il ne veut pas simplement, ah oui, on fait semblant. Non, il veut guérir mes faiblesses, mes blessures, vos blessures. Et je sais que je peux lui faire confiance pour la suite, parce que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas du tout terminé. Il a encore du boulot. Et puis des fois, j'avais aussi partagé une fois, je pense que c'était avec Dominique, j'ai l'impression de me mettre la pression en disant, mais Clarissa, tu es officière, tu ne peux pas te sentir comme ça, tu ne peux pas être triste, tu ne peux pas dire que tu doutes de ta valeur. Mais si, je suis officière, mais avant tout, je suis Clarissa. Avec un passé, avec des blessures, avec des cicatrices. Donc, je peux, j'ai le droit de me sentir comme ça. De montrer aussi que je me sens comme ça. Et puis, je sais que Dieu, il a guéri déjà beaucoup de choses dans ma vie. Les témoins lumineux, relations avec ce que j'ai vécu dans ma famille, ils réapparaissent de temps en temps. Même si j'ai déjà dit, ah oui, je pardonne ma maman, je pardonne mon papa, je ne veux pas que ces choses-là continuent d'avoir une influence sur ma vie, mais ils réapparaissent. Mais je sais que le Dieu qui a commencé la bonne œuvre, il va compléter son travail dans ma vie. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va faire. Et puis, la guérison que Dieu veut opérer en nous, c'est d'être dépendant. Être dépendant d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui guide, qui conduit, qui guérit. La guérison, c'est être dépendant de lui pour être libre de tout ce qui nous empêche d'aimer. Les blessures qu'on a vécues nous empêchent parfois d'aimer. J'ai partagé aussi dans le groupe. Je ne sais pas si on n'arrive pas à aimer Dieu véritablement comme il faut, si on n'a pas guéri ses blessures du passé, les blessures que voilà qui nous a vraiment marqués. On ne peut pas l'aimer. Il y aura toujours quelque chose qui nous empêche de l'aimer véritablement. Et puis il veut guérir ce qui nous empêche de l'aimer de toute notre âme. Il veut guérir ce qui nous empêche d'avancer, d'aimer les autres autour de nous. Je sais que Dieu l'a beaucoup, il a déjà fait beaucoup de choses pour nous. Pas seulement pour moi, mais pour nous. Mais on oublie très facilement ce que Dieu l'a fait. On laisse les autres choses passer devant et on oublie ce qu'il est en train de travailler, ce qu'il est en train de faire dans notre vie. C'est comme dans l'Ancien Testament aussi, où Dieu il venait de faire un miracle, de montrer, oui, vous pouvez voir mon pouvoir, celui-là avec vous. Et puis le lendemain, voilà, une autre chose a commencé, les difficultés sont apparues, et puis les gens, ils ont complètement laissé de côté ce que Dieu avait fait avant. Et puis on fait ça aussi. On dit oui, Dieu, il est merveilleux, il a fait ça. Le jour où il a fait ça de ma vie, et puis je ne peux pas oublier. Mais quand les difficultés apparaissent, mais on laisse de côté, hein. On laisse de côté et on dit, mais où est Dieu? Où est Dieu, mais Seigneur, donne-moi une réponse. Où es-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, voilà. On oublie ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Comme il dit dans le livre, ma tâche maintenant est de décider ce que je garde en mémoire. L'action de mon agresseur, voilà les difficultés du passé, ou le soin de mon sauveur. Qu'est-ce qu'on met en premier? Le mal qui m'a fait, quelqu'un m'a fait, voilà le mal qui m'a été fait. Oh, la guérison que Jésus veut m'apporter. Où est-ce que je veux mettre Jésus? Où est-ce que je veux mettre tout ce que Jésus a fait pour moi? Qu'est-ce que ça compte le plus? Parce que si on prend l'exemple là, on a tout le monde qui conduit aujourd'hui a dû passer par des leçons, l'examen, tout ça. Donc, on avait appris à conduire. Mais quand un témoin s'allume, on panique. Mais c'est comme si on oubliait ce qu'on avait appris. Mais non, il est là. On a appris, donc ça reste là. Il ne faut pas laisser de côté les choses que Dieu a fait. Son amour, et puis je vous dis ça, mais en faisant preuve, son amour est plus grand que tout ce qu'on a pu souffrir. Même si on n'arrive pas à saisir ça aujourd'hui, parce que je sais, c'est difficile. Si on a vécu des choses difficiles dans la vie, c'est difficile de dire, mais j'ai déjà entendu tellement de fois, mais où est Dieu? Ah, on voit toute cette guerre qui arrive dans le monde, mais où est Dieu? Mais il est là. Et puis son amour est plus grand que tout ce qu'on a pu souffrir. Même si aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre. Mais on peut vraiment saisir cette vérité. Son amour est plus grand que ce qu'on a pu souffrir. J'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour. Dieu, merci pour ta présence. Merci de m'avoir donné la main. Merci de m'avoir aimé. Seigneur, merci de m'avoir dit les paroles valorisantes que j'avais besoin d'entendre. Merci parce que même quand je doutais de moi, toi, tu étais là. Même quand ça a été difficile pour moi, Seigneur, tu étais là. Merci parce que je peux sentir ton amour, Seigneur. Et puis je te demande vraiment de nous aider à chaque jour, Seigneur, saisir cette vérité que ton amour est le plus grand que tout ce qu'on a pu souffrir. Seigneur, tu nous aimes avec un amour qu'on ne peut pas décrire, Seigneur. Tu nous aimes même avec nos péchés, avec nos crises des fois. Tu nous aimes même sans doute des fois de ta présence, sans doute de ton pouvoir. Merci parce que tu nous connais. Tu es le fabricant, tu es le créateur de notre vie. Seigneur, et puis tu veux nous conduire. Tu veux nous montrer le chemin. Et puis je te demande de nous aider, Seigneur, à parcourir ce chemin avec toi. Pendant le moment où on passera par des difficultés, qu'on puisse prendre ta main, Seigneur, et puis avancer un jour après l'autre, un pas après l'autre. Merci parce que même cette force-là d'aller à la rencontre de ta main vient de toi. Merci, Seigneur, de nous avoir aimés. Et de nous aimer encore aujourd'hui. Puis je te demande de conduire, Seigneur, la voiture de ma vie, d'être au centre. Seigneur, que je puisse faire appel à toi en tout temps, parce que tu es là. Tu es là, tu nous montres toujours que tu es là. Et puis que ton amour puisse prendre place dans notre vie, dans nos cœurs. Je te demande de nous aider à reconnaître les blessures qui doivent encore être guéries, les pas qu'on doit encore faire, Seigneur, pour être guéri. Puis c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. Des fois, ça prend du temps. Mais je sais que tu es là pour nous aider à passer pour chaque étape. Merci d'être ce Père d'amour que je ne peux pas comparer avec mon père ici-bas. Merci parce que tu étais le père que j'ai jamais eu. Tu es. J'ai vraiment cœur à te dire merci pour ton amour, pour ta présence de ma vie. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Merci de m'avoir donné une famille. Où c'est vrai que dans mon passé, je n'avais pas vraiment d'espérance, je n'avais pas d'espoir. Mais tu es bon. Tu es bon et tu as toujours été à mes côtés. Merci d'être à nos côtés à chaque jour, Seigneur, à chaque décision, à chaque moment. Loué soit ton nom, Seigneur. Amen.